Là, j'ai un tome derrière, le tome vert. C'est le premier tome d'un dossier qu'on va examiner fin novembre. Il y a 15 tomes en tout. Ça fait 1600 codes, je crois. Un dossier ne vaut pas un dossier. Je vous parlais de dossier à 15 tomes, 19 tomes, 42 tomes. On a un dossier qui va venir l'an prochain, 42 tomes. Il vaudra un arrêt, mais cet après-midi, on va juger une affaire de vol d'un chèque et d'émission de ce chèque de manière frauduleuse. Donc, qui prend l'examen du dossier m'a pris 10 minutes.
La justice côté humain. Qu'est-ce qu'être magistrat ou avocat à la cour d'appel ?
Ça n'est pas simple, hein. Les émotions d'abord on les maîtrise difficilement, en tout cas les émotions elles affleurent, alors à nous de ne pas les laisser transparaître, donc on essaie de ne pas avoir de mots critiques, de sourires sardoniques au moment où on nous raconte manifestement des salades, de lever les yeux au ciel, enfin voilà, on s'abstient de toute démonstration de ce qu'on pense en notre fort intérieur. Et puis il faut aussi qu'on ne se laisse pas emporter par les paroles de la victime quand elle décrit ce qu'elle a subi et que c'est difficile à supporter, parce que si on exprime une compassion, on n'est plus un juge impartial aux yeux du présumé auteur des faits. Donc on est tenu à une impartialité la plus importante possible, en tout cas ne pas montrer ce que l'on pense.
Alors, évidemment que nous avons un rôle de conseil. Notre travail, c'est pas seulement aller parler et plaider devant les juridictions. Notre travail, c'est aussi, en amont de l'audience, en aval de l'audience, de discuter avec nos clients et de les aider à prendre leurs décisions. C'est-à-dire que nous disons, voilà quel est le jugement de première instance, voilà si on fait appel ce qu'on peut espérer, voilà ce qu'on peut aussi redouter, voilà quelles sont les chances de succès, voilà quels sont les risques d'échec. Maintenant, à vous de prendre votre décision. Il y a un délai d'appel qui, classiquement, est de 10 jours, et ce délai est mis à profit par nos clients. Mais nous agissons très clairement sur ordre de nos clients. Quand nos clients veulent faire appel, nous, c'est nous qui matériellement inscrivons l'appel, mais c'est la décision de nos clients. On est complètement engagé. On s'incarne presque dans la personne qu'on défend. On fait souvent la réflexion. Quand je rentre d'audience, je dis « j'ai pris tant ». Souvent, c'est des choses qui amusent mon entourage, parce qu'on me dit « attends, c'est pas toi qui as pris ». Oui, mais quand même, on s'incarne un peu dans les personnes qu'on défend, et au moment de l'audience, on fait plus qu'un, d'une certaine façon. Et c'est vrai que ce qui va être dit à l'adresse de notre client, on le prend un peu pour nous, parce qu'à ce moment-là, on est lui.
L'avocat général va représenter la société, notion sociologique qui ne recoupe pas l'intérêt de l'État, mais qui est bien la notion, qui recoupe la notion, je dirais, de peuple. Hein. La société, c'est l'ensemble des personnes qui la composent. Et il va intervenir dans l'intérêt général, qui est, je le rappelle souvent, l'addition des intérêts particuliers. Ce n'est pas l'intérêt de la victime qui, naturellement, est compris dans l'intérêt général, mais qui ne se réduit pas à l'intérêt général. La victime va exprimer son point de vue, c'est certain. Elle va le voir sous l'angle du préjudice personnel et de la souffrance, surtout. L'avocat général va dépasser ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce cas particulier, quels sont... Bien sûr qu'on intègre, bien entendu, mais quels sont les enjeux de société qui y sont derrière?
On essaie de ne pas se laisser impressionner par le contexte, par l'apparence. On essaie de rester sur le fond. Il ne faut pas que quelqu'un soit jugé plus sévèrement parce qu'il n'a pas les codes de la bonne conduite, de la politesse, et qu'il n'a pas un vocabulaire étendu. Alors on dit que là je donne un peu de sagesse, je ne sais pas si c'est le cas, mais il est certain qu'on a plus de distance par rapport à une mauvaise réponse du prévenu. Je pensais à un trafiquant de stupéfiants qui a reconnu en première instance qu'il ne cherchait plus de travail depuis 2 ans parce que finalement il vivait très bien avec l'argent de la drogue. Et ça a déplu au président qui lui a fait une remarque qui n'est pas apparue dans les notes d'audience, mais nous l'a dit. devant la cour d'appel où il a été jugé, donc un mois après seulement, hein, il était détenu, donc on l'a jugé assez rapidement. Et son avocat a fait observer qu'il s'était mal défendu devant le premier tribunal, parce qu'il avait dit cela, et que ça avait bien sûr énervé les trois magistrats, ça ne leur avait pas convenu. Et il a tempéré notre trafiquant de stupéfiants, il a tempéré son propos en disant qu'il était dans l'héroïne, il en consommait 5 grammes par jour, donc une toxicomanie effrayante. Il était au maximum de ce qu'il pouvait absorber physiquement, et que du coup, de toute façon, il n'aurait pas trouvé de travail, bien évidemment. On le savait bien, cela. Mais il nous a expliqué qu'il payait, bien sûr, son loyer, ses vêtements, sa nourriture avec le trafic de stupéfiants. Et du coup, évidemment, l'approche qu'on en a eue était plus pacifiée que ce qu'ont pu penser les premiers juges. Pour autant, la peine a été en fait alourdie. Donc, il n'y a pas gagné, mais il avait eu le sentiment d'irriter ses juges.
Notre travail d'audience est important dans le sens où on fait un petit peu l'interface entre le monde des magistrats, enfin les magistrats, d'une manière générale, et les prévenus. Ce sont des gens qui se croisent contraints et forcés dans une salle d'audience, mais qui n'ont pas forcément les mêmes préoccupations, les mêmes façons de s'exprimer, les mêmes vues d'ensemble des problèmes qui nous occupent tous et du problème qui les occupe. Donc nous, notre travail, ça va être aussi de faire en sorte que ça se passe bien et que parfois des réponses un petit peu abruptes des prévenus soient remodelées de façon à être plus acceptables, que parfois des questions un peu abruptes des présidents soient aussi amodiées de façon à ne pas choquer, à ne pas gêner. On a un travail un petit peu de polissage qui est à faire en amont de l'audience. J'avais un client qui était à votre place hier, à qui je disais, juste avant l'audience, je vous rappellerai quelles sont les balourdises à éviter, parce que je le crois capable d'en sortir de bien belle. Donc quand on sent ce genre de choses, quand on pense les sentir, on essaye d'anticiper.
Nous cherchons à être juste par rapport aux éléments de fait d'un dossier, de ce qui s'est passé au moment des faits, voilà, et que ces réquisitions soient comprises.
Oui, travail de pédagogie aussi, vous avez raison, parce que il faut aussi leur faire comprendre que ce qui s'est passé, ce dont ils sont rendus responsables, c'est quelque chose d'important et qui est marqué déjà par un certain critère de gravité. Donc la décision, on est là aussi pour aider à la comprendre et parfois à l'accepter. C'est-à-dire, quelqu'un qui comparaît devant une juridiction, je crois qu'on a un rôle important à jouer pour lui faire comprendre et lui faire admettre pourquoi des magistrats ont pu décider que ce qui s'était passé, ça valait un an d'emprisonnement, par exemple, pour qu'il n'y ait pas, au bout du compte, un sentiment d'injustice.
Si nous sommes au regard des éléments aussi bien écrits qu'à l'oral, convaincus la culpabilité n'est pas acquise, nous n'allons pas requérir sur la culpabilité et après sur la peine. On a là un enjeu de vérité judiciaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le but, effectivement, c'est de convaincre, mais pas à n'importe quel prix.
Donc, il y a un certain nombre de preuves qui disparaissent avec le temps et donc on ne les ordonnera plus. En revanche, si la procédure n'est pas complète et si ça n'a pas été fait avant, eh bien on en tirera les conséquences que ça pose et ça va toujours dans le sens du bénéfice, bien sûr, de la personne qui est poursuivie. Il nous arrive quand même de relaxer des gens dont on est pertinemment convaincu qu'ils ont bien commis les faits. À partir du moment où c'est la règle du jeu, on n'en a pas la preuve, il faut être loyal et en tirer les conséquences qui s'imposent.
On a la chance d'exercer un métier où, évidemment, qu'il y a forcément un peu de routine qui s'installe dans le temps. Néanmoins, à chaque fois qu'on va devant une juridiction pénale, c'est pour un client nouveau et pour un dossier nouveau. Donc, on va quand même retrouver toujours, à mon avis, un petit peu de sel dans ce métier, tout simplement parce que les dossiers changent et qu'on ne peut pas comparer deux dossiers les uns aux autres. Moi, je pense au contraire que le fait d'avoir des dossiers toujours nouveaux, toujours différents, c'est un motif, non pas d'assoupissement, mais au contraire, c'est ce qui génère un intérêt toujours renouvelé pour pour ce qu'il y a de remarquable et de redoutable à la fois dans ce métier, c'est que un jour vous avez un super bon résultat, donc vous commencez à avoir les pieds qui décollent du sol et vous êtes tout content et ça vous tient 3 jours, et puis la semaine suivante vous vous faites massacrer. Donc là, ça vous ramène sur terre, à votre condition d'avocat qui fait ce qu'il peut avec les dossiers qu'il a, avec les clients qu'il a. Mais justement, c'est une profession où il faut surtout ne jamais se croire arriver et se dire qu'on doit remettre l'ouvrage sur le métier tous les jours, tous les jours, tous les jours, faute de quoi on n'est pas bon.
On se répartit, nous sommes 3, donc c'est le président qui théoriquement répartit tout seul les dossiers, en réalité on le fait ensemble et on se répartit les dossiers. Alors en fonction de ce qu'on a jugé précédemment, si on sort d'une affaire de stupéfiants, on va préférer juger des vols et des violences par exemple, et c'est aussi une question de spécialité. Par exemple, si quelqu'un s'y connaît bien en matière d'armes, et bien s'il y a un problème, une infraction qui concerne une arme ou le fonctionnement d'une arme ou des choses comme ça, on va la confier à celui qui s'y connaît le mieux. Il y a aussi une question de goût, il y a des collègues qui n'aiment pas les violences avec 3 ou 4 prévenus, à ce moment-là on se répartit entre nous à l'amiable, je dirais.
Le risque de représailles existe toujours par définition, on le sait, on ne fait pas ce métier par hasard, hein. C'est un choix qui est fait et qui est fait en toute conscience. Simplement, on n'a pas cette crainte, parce que si on avait cette crainte, on ne ferait pas ce métier, hein. Donc je réponds cela, et il faut savoir que si ça se réalise, certains magistrats dans certains contentieux, en particulier les magistrats spécialisés dans le terrorisme et autres affaires extrêmement sensibles, font la demande de protection rapprochée.
À force de voir des infractions tout le temps, à force de voir des infractions extrêmement graves et d'autres beaucoup moins graves, on a tendance à relativiser la gravité de toutes. Et c'est quand on en discute avec des gens qui ne sont pas du tout dans le système judiciaire qu'on prend conscience, pour nous, un vol de voiture, ça n'est pas très grave. Pour un smicard qui a mis 2 ans à rembourser cette voiture, qui ne sera pas et qui ne percevra pas une indemnité considérable de l'assurance, qui va devoir se réendetter parce qu'il a besoin de ce véhicule pour aller au travail, c'est dramatique. Et on a, nous, tendance finalement à relativiser davantage que le public, je pense, la gravité des infractions. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous reproche, c'est ce que le milieu politique nous reproche. On nous dit toujours que nous sommes finalement beaucoup trop laxistes et qu'il faudrait intégrer dans les compositions correctionnelles et les compositions de cour d'assises encore davantage de gens ordinaires.
Quand l'ordre public, en quelque sorte, est troublé de manière excessivement sévère, je pense par exemple à des viols commis avec actes de barbarie, etc., même si vous avez un regard de culpabilité vrai, il y a des seuils. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la pédagogie, il y a la psychologie, etc., il y a des enjeux qui sont de cet ordre-là, on adapte, mais évidemment qu'au niveau de la société, il y a aussi ces éléments qui sont des éléments, je dirais, de repères en termes de protection de la société, qui font que de toute façon, on ne descendra pas en deçà d'un seuil. Et d'ailleurs, quelquefois, souvent, il nous arrive de nous dire, finalement, on va fixer un seuil en deçà duquel on demande à la cour d'assises de ne pas descendre. Voilà, parce qu'on estime qu'en deçà, eh bien, véritablement, la société ne serait pas protégée.
Et qu'est-ce qui complique la vie des acteurs de justice ?
La médiatisation, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est à double tranchant, parce que ça peut, on peut parfois par la médiatisation faire passer un certain nombre de messages et obtenir des résultats un petit peu inespérés, simplement parce que des choses vont être dites qui n'auraient pas été sans médiatisation. En même temps, le danger de la médiatisation, c'est qu'elle a tendance à exacerber les attentes que tout le monde a autour d'un procès. Mujulin, je n'ai pas de jugement, bien sûr, à porter sur ce qui s'est passé. Je sais que les avocats de la défense ont fait leur travail et qu'ils l'ont bien fait. C'est sûr que le fait que ce dossier ait été médiatisé comme il l'a été, je ne suis pas sûr que ça les ait aidés.
La justice s'explique avec du temps. La justice ne s'explique pas dans la surexposition et la surmédiatisation. Et puis, il ne faut pas sous-estimer le bon sens du peuple français. Ce n'est pas parce que, je dirais, on livre ses états d'âme dans les médias que les justiciables, les Français, bon, ceux qui en tout cas ont accès, je veux dire, aux informations, considèrent que la décision rendue, par exemple, est injuste ou pas juste. Ils ont les éléments en présence, tout le monde connaît l'affaire Muselin, et je pense véritablement que la justice n'a pas à s'expliquer là-dessus, elle s'explique par le biais d'une motivation, et par la suite, l'avocat général, une fois que la justice aura été rendue de manière définitive, il y a un pourvoi en cassation en cours, eh bien, pourra exposer les motifs de ces réquisitions. Mais un avocat général n'a pas à expliquer une décision de justice, c'est pas, en tout cas, ça ne fait pas partie de son statut, si vous voulez. Hein. On a encore une fois une obligation de réserve. Et moi, j'attache de l'importance à cette différence fondamentale que l'on doit faire entre communication et médiatisation.
Alors la différence entre les magistrats de la Cour d'appel et les magistrats de première instance, et je pense que c'était ça l'intention des législateurs, c'est que le litige soit soumis à des juges plus vieux, plus anciens, qui ont plus d'expérience professionnelle et qui ont un grade supérieur à celui des juges de première instance. Alors pour des raisons maintenant de gestion administrative du corps des magistrats, ça n'est pas toujours le cas. Hein. Il se peut très bien que l'affaire ait été jugée en première instance par un président qui soit davantage gradé, si je puis dire, que le juge d'appel. Mais l'équilibre de l'institution et qu'on a des juges plus jeunes et moins expérimentés en première instance, et des juges plus âgés et plus expérimentés en appel. Ils ont également moins d'affaires à juger, ils peuvent prendre plus de temps, et puis ils rédigent, je dirais, sous le regard de la Cour de cassation, donc en prenant un soin particulier la rédaction de la décision, à l'explication de tous les éléments constitutifs, ce qu'en première instance, les collègues ne font pas forcément, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas le fait.
D'une manière générale, je trouve que il y a plus de pédagogie dans les audiences de première instance que dans les audiences de cour d'appel.
D'accord.
La cour d'appel, on a quand même l'impression que c'est une juridiction qui veut prendre de la hauteur, qui en prend peut-être, mais qui veut prendre de la hauteur, et qui est moins proche des justiciables, qui ne fait pas toujours ce travail de... justement, d'expliquer aux justiciables ce qui se passe et quelles sont les décisions rendues. Je pense que le dialogue passe mieux devant les juridictions de première instance. Il n'y a pas longtemps, mais c'était un instantané d'audience qui est à hurler de rire, il y avait un jeune homme qui passait devant une juridiction qui était présidée par un magistrat qui sera bientôt à la retraite, le magistrat lui demande son adresse. Et le gamin, avec son accent de banlieue, lui dit « J'habite rue de Narvik, dans le 8e arrondissement. » Et le magistrat dit « Narvik, Narvik, oui, vous connaissez, jeune homme ?» Le magistrat avait en tête la ville de Norvège, qui a été le théâtre d'une bataille navale assez célèbre sous la Deuxième Guerre mondiale. Donc le magistrat Narvik « Ah oui, Narvik, Narvik, vous savez où c'est, jeune homme ?» En criant, bah ouais, c'est dans le 8e. Attendez, monsieur Narvik, vous savez où c'est. Donc, il y a eu un quiproquo pendant une minute, durant lequel, pour l'un, Narvik, c'était une rue du 8e, et pour l'autre, Narvik était cette ville norvégienne qui avait été le théâtre d'une fameuse bataille navale sous la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, vous voyez, je pensais à la définition des droits parallèles, qui se côtoient, qui se frôlent, mais qui ne se rencontrent jamais. Il n'empêche qu'ils se rencontrent, ces gens-là. Et que l'un a des pouvoirs immenses sur la vie de l'autre. Et c'est en ce sens-là que des fois, il y a des choses qui ne passent pas complètement, parce qu'ils ne se comprennent pas toujours.
Et je pense qu'il faut toujours garder de l'espoir, quoi qu'il arrive, mais qu'il faut rester lucide. Donc, à l'audience, les réquisitions face à certains multirécidivistes qui utilisent la stratégie, le discours va être lucide et va être axé sur la protection de la société. Souvent on nous dit à quoi sert la prison, il va recommencer, il va sortir. La différence c'est que pendant ce temps, il n'y aura pas d'autres victimes. Alors c'est vrai que c'est un discours qui est un discours je dirais, en quelque sorte de neutralisation des effets nocifs. Mais pendant ce temps-là, j'ai quand même, ça c'est la lucidité, mais j'ai quand même l'espoir que lors de cette énième incarcération, durant ce temps-là, eh bien, pendant l'aménagement de la peine et pendant tout ce qui est mis en place en prison, eh bien quand même, quand c'est la énième fois, celui-ci aura peut-être ce déclic-là qui peut parfois se produire, de se dire, je ne vais quand même pas passer 50 ans de ma vie en prison. Voilà.
Alors on a des appels de personnes qui ne sont pas satisfaites de la décision, et puis on a des appels, comme vous l'imaginez bien, dilatoires. Parce que, puisque la peine ne peut pas être mise à exécution sur le champ, la personne se dit qu'avec un peu de chance, elle va faire appel, reporter l'examen de l'affaire. Le temps qu'on la retrouve, eh bien, il va peut-être s'écouler encore un certain nombre d'années, et elle espère toujours que la peine finira par ne pas être mise à exécution. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'à partir du moment où la personne annonce son intention de faire appel, on lui notifie la date d'audience au moment où elle forme son appel, et il y a un certain nombre de personnes qui, par suite, sont convoquées immédiatement.
Je dirais que on peut se retrouver face à des cas d'appels totalement, si vous voulez, des appels qui sont maîtrisés, qui sont faits parce qu'on conteste pour telle et telle raison, bien précise, qu'on a des arguments, etc. Hein. Et puis d'autres appels qui sont faits effectivement, on peut dire par pure stratégie ou avec une vision utilitaire qui en réalité ne l'est pas. Parce que c'est une fuite en avant que l'on connaît bien, nous, hein, sur le plan de l'approche sociologique, si on peut parler comme ça, c'est qu'il y a un phénomène de fuite en avant qui se met en place et le prévenu recule l'instant de condamnation et d'exécution.
Ça nous arrive de déconseiller très fortement de faire appel. Moi, lorsque je considère que la décision de première instance est acceptable, j'écris noir sur blanc à mes clients, je vous déconseille formellement d'interjeter appel. Je vais vous donner un exemple. J'ai défendu il y a un mois devant le tribunal correctionnel de Lyon un jeune homme qui était poursuivi pour des faits d'agression sexuelle. Il contestait les faits, il se disait innocent de ces faits. Le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à une peine. Mon client, je lui ai donné évidemment la teneur, je lui ai écrit la teneur de la décision dans les 48 heures de façon à ce qu'il ait le temps de se retourner pour faire appel. Il y a d'une part une déclaration de culpabilité qui évidemment ne correspond pas à ce qu'il disait, d'autre part une peine qui est acceptable et qui préserve ce jeune homme dans sa liberté actuelle. C'est quelqu'un qui a été incarcéré en cours de procédure, qui est actuellement en liberté et qui, cette décision ne va pas remettre en cause son statut d'homme libre. Je crois qu'il ne va pas faire appel.
L'évolution de la société m'oblige à vous dire que depuis 25 ans, je constate une arrogance, une violence verbale qui n'existait pas quand j'ai commencé et qui maintenant s'exprime à l'audience parce que...
Par des menaces, par
des paroles agressives. Et maintenant, donc, la cour... cadre, mais on n'avait pas à le faire. Voilà la différence.
Si l'enquête nous apparaît incomplète, il n'est pas certain que la Cour va... est-ce que c'est le rôle de la Cour d'aller chercher un complément à ce qu'on a donné à juger au premier juge ? Pas forcément. Si l'enquête est parcellaire et insuffisante, la Cour en tirera les conséquences qu'ils imposent. Sinon, nous n'avons pas assez de preuves pour condamner quelqu'un, on relaxera.
La justice doit, aux yeux des justiciables, être neutre, et donc on ne doit pas, je dirais, donner le sentiment qu'on est de parti pris pour l'un ou l'autre. Nous, nous agissons dans l'intérêt général. Ça fait tout, quand même une grande différence au niveau de la communication. D'ailleurs, vous observerez qu'on entend beaucoup les avocats, et on entend peu, par définition, les avocats généraux, sauf quand on est interviewé une fois que l'affaire est rendue définitivement dans le cadre d'un reportage, etc. Mais là, c'est un devoir d'information qui ne porte plus atteinte au devoir de réserve, au secret de l'enquête.
Alors finalement, la cour d'appel, ça fonctionne ?
Tout professionnel doit toujours considérer que ça ne fonctionne jamais assez bien pour pouvoir être dans la perspective dynamique de l'amélioration constante parce que c'est un service public. Voilà, je répondrai ça au préalable. Donc, constance des efforts vers l'amélioration en fonction des moyens qui nous sont alloués, bien entendu.
Le métier de juge exige de prendre du temps et de réfléchir et de mûrir la décision. Ça m'est déjà arrivé au civil comme au pénal de préparer une décision, de la motiver et de la changer par la suite. Parce que, entre-temps, j'avais réfléchi au problème, on dit la nuit pour te conseiller. Souvent, après une ou deux nuits, on revoit les choses et on dit je ne vais pas, pour pas forcément changer ma décision, mais au moins changer sa présentation et parfois même changer la décision. Donc nous, on a besoin de temps de réflexion, de maturation. On a besoin aussi de lire les écrits des autres, les commentaires des arrêts de la Cour de cassation, toutes choses qu'on fait de moins en moins. Quand je suis entrée dans ce métier il y a 25 ans, les magistrats de cour d'appel et puis même les magistrats de première instance avaient le temps de lire les périodiques, la Gazette du Palais, la Semaine juridique auxquelles nous sommes abonnés et qui arrivent deux ou trois fois par semaine dans les tribunaux. Maintenant, on ne fait plus des recherches qu'à l'occasion de l'affaire contrainte. Ça, c'est la grande différence. Avant, on avait des magistrats qui étaient compétents et qui connaissaient un certain nombre de choses dans les matières qu'ils ne traitaient pas parce qu'ils lisaient la production juridique classique. Maintenant, c'est fini. On n'a plus le temps de faire cela. Et alors, en première instance, on est quand même confronté au flux des affaires. C'est-à-dire qu'on se positionne beaucoup en termes d'évacuation. J'ai tant de dossiers qui sont rentrés. Si je veux que les gens aient leur décision moins d'un an après avoir saisi la juridiction, il faut que j'en sorte tant. Et nécessairement, on a quand même le sentiment, moi ça m'est arrivé, d'avoir l'impression de faire du jugement au kilomètre et de ne pas avoir suffisamment de temps pour chercher. Et c'est quand on doit rendre la décision, à mon avis, qu'on cherche le plus efficacement. Et c'est difficile de déléguer cette réflexion-là à quelqu'un. Et donc, je pense qu'on rend une justice de moins bonne qualité qu'il y a 20 ans parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour réfléchir suffisamment, pour faire les recherches suffisantes et puis pour prendre le temps qu'il faut pour faire des décisions mûrement réfléchies. En même temps, le besoin social, c'est d'avoir une justice assez rapide. Donc on est toujours dans le compromis, mais ça c'est depuis 20 ans, dans le compromis temps-qualité. Donc comment juger le plus vite possible sans trop lâcher sur la qualité? C'est le grand écart qu'on fait depuis longtemps. Et on nous le reproche, enfin on nous reproche quand on se trompe. L'affaire d'Outreau, c'est tout à fait emblématique, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même une demande de qualité, et c'est normal. Et il va falloir que nous, on arrive à dire qu'il y a des moments où on ne peut plus rendre une justice de qualité avec les statistiques qu'on nous oblige à tenir. Donc, et c'est à nous de dire aux politiques qu'on veut davantage de moyens ou alors qu'il faut qu'on soit saisi de moins de choses. On peut aussi imaginer qu'un certain nombre de contentieux dont nous sommes saisis ne soient plus tranchés par des juges. Est-ce qu'on a besoin, quand on a des personnes qui se sont paxées ou qui se sont mariées, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas acheté d'immeuble, est-ce qu'on a besoin de passer par un juge? Est-ce que, alors ça, en revanche, nous, on peut exprimer des options, des idées, mais les choix, ils sont faits par le politique.
C'est une institution humaine, donc imparfaite, mais elle est imparfaite comme le sont les régulations de la vie en société. C'est sans doute un système perfectible, mais il n'y en a pas d'autre envisageable dans un État démocratique. J'aurais tendance à dire que ça ne fonctionne pas si mal que ça.